présente cette cassette est un montage de trois séquences, qui sont trois aspects de l'instructiatique de Bernard de Montréal. Dans la première partie, Bernard de Montréal aborde les lois de l'initiation solaire, de la fusion de l'esprit avec l'ego jusqu'à l'étape d'intégration, c'est-à-dire l'harmonie réalisée entre l'esprit et l'ego de l'homme. La première question que je lui posais lors de cette interview fut la suivante. Bernard de Montréal, à quel moment de son évolution l'homme commencera-t-il à prendre le contrôle de sa vie?
Aujourd'hui, à la fin de l'évolution, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle de vie où l'homme commencera lentement à prendre le contrôle de sa vie. Ça veut dire quoi, prendre le contrôle de sa vie? Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de son énergie créative, de son énergie interne, de son esprit, ou de ses forces en lui qui sont occultes, cachées, et qui travaillent subtilement à l'utilisation ou à travers son centre mental ou son centre émotionnel. Donc l'homme doit devenir maître de la vie. Il doit devenir de plus en plus vibrant à son énergie. Et ceci requiert qu'il y ait dans ses composants psychologiques, dans les composants de son émotion, de sa mentalité, un changement irréversible. Et quand je dis un changement irréversible, je dis ce changement qui fait en sorte que l'ego demain ne sera plus le même. L'ego demain sera dans sa clarté, dans la netteté de son intelligence, dans la lucidité de son intelligence, et il ne pourra plus fonder sa conscience expérimentale, existentielle, sur une convenance sociale qui fait partie de l'ancienne race humaine. Et c'est pourquoi l'ego qui se conscientisera au cours des prochaines générations sentira le déchirement. C'est inévitable. C'est pourquoi je dis qu'il y a aujourd'hui sur la Terre une initiation solaire qui n'est plus véhiculée par des hommes, mais qui est véhiculée par l'esprit dans l'homme. Et ceux qui ont la sensibilité, qui sont suffisamment évolués pour supporter le champ de cette énergie, en arriveront éventuellement à vivre la métamorphose de l'ego, la métamorphose de leur conscience, et pénétreront graduellement dans la fusion de leur intellect.
Alors si la fusion permettait de donner un sens à l'expérience de vie de l'homme, est-ce que cela veut dire pour autant que ça serait supprimer sa souffrance? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, par exemple, chez les gens qui sont en cours de fusion? Est-ce que ce serait la souffrance? Est-ce que ces gens-là vont être capables de s'en débarrasser un jour? Ou pourquoi la souffrance?
Oui, la souffrance, elle est inévitable parce que l'homme qui se conscientise ou qui parvient à vivre de son intelligence créative est obligé de laisser de côté, laisser derrière lui l'intelligence conceptuelle qui est fondée sur la mémoire. Il est obligé aussi, en deuxième lieu, de subir le choc de pénétration de l'énergie de son propre esprit, ce qui altère son corps mental, son corps émotionnel, ce qui a un effet sur sa vitalité. Donc, l'homme qui se conscientise ne vit pas sa vie simplement psychologiquement, il la vit psychologiquement et à la fois vibratoirement, c'est-à-dire qu'il devient conscient d'une énergie qui le pénètre. Et comme il prend conscience de la multidimensionnalité de son être, c'est-à-dire qu'il prend conscience de la relation entre les événements sur le plan matériel et l'origine ou la cause de ces événements sur les plans invisibles qui font partie des plans de son esprit, il commence à voir une interconnexion entre ce qu'il vit existentiellement et ce qu'il vit sur le plan de l'événement. Et étant conscient pour la première fois de la multidimensionnalité de son expérience, il s'aperçoit que la volonté de vivre, la liberté de vivre qu'il possédait auparavant, était une volonté ou une liberté assujettie à une ignorance, c'est-à-dire assujettie à une condition d'entendement qui ne relevait pas de son esprit, mais qui relevait de son intellect, de son expérience, de la limitation de ses sens. Donc automatiquement, l'ego est forcé de réaliser, éventuellement d'admettre, qu'il y a en lui une présence qui est son propre esprit, dont la puissance énorme crée en lui une perturbation. Lorsque l'esprit de l'homme est prêt à vie, à faire la fusion avec le mortel, il se produit chez le mortel une transmutation de ses corps qui amène à un développement de conscience, donc à une perturbation de sa relation entre ce que lui croit être réel et ce que la réalité est en fait absolue. C'est ce qui crée la France.
C'est la réalité qui s'impose.
C'est la réalité de l'homme qui s'impose à l'irréalité de l'homme. Donc il y a déplacement dans l'irréalité de l'homme, il y a souffrance à cause de ceci. Parce qu'un homme qui est conscient de sa réalité, qui est dans sa réalité, n'a plus à souffrir parce qu'il y a eu ajustement entre sa réalité et lui-même, entre son esprit, son énergie et lui-même. À ce moment-là, il y a automatiquement une harmonie sur son plan de vie terrestre et il ne souffre plus parce que sa conscience est trop grande. Elle englobe la particularité événementielle de sa conscience pour lui donner une compréhension profonde de la relation entre l'événement et son esprit. Et comme l'esprit fait partie de la lumière de l'homme, comme l'esprit fait partie de l'intelligence de l'homme, comme l'esprit c'est l'essence de l'homme, l'homme vit l'événement essentiellement. Donc, il enlève à l'événement la fortuité existentialiste pour lui donner le caractère absolu, transformationnel, qui lui donne inévitablement une conscience nouvelle. Donc sa souffrance n'est plus, comme dans le passé, une souffrance purement expérimentale pour le bénéfice de sa mémoire. Elle devient une souffrance transformationnelle pour le bénéfice de sa conscience.
Mais au tout début de son expérience de fusion, lorsque l'esprit prend contact avec l'intellect ou avec l'ego, ou avec le mortel, la personne ne doit pas pouvoir identifier l'esprit. C'est beaucoup trop vague, l'esprit. Comment est-ce qu'elle peut identifier un contact?
Elle l'identifie graduellement au fur et à mesure que la nature même de ses pensées change. Lorsque l'esprit prend contact avec l'homme, il se produit d'une façon particulière à chaque individu une identification quelconque avec son esprit. Et ceci se fait sur les plans subtils de l'esprit, donc sur le plan mental de l'homme, et avec le temps, l'expérience, l'homme s'aperçoit qu'effectivement, son esprit, c'est lui. Sur un autre plan.
Mais est-ce qu'au départ, il ne va pas lui donner d'autres étiquettes
Oui, parce qu'au départ, l'homme n'étant pas encore parfaitement en contrôle de son expérience, n'étant pas encore parfaitement assis sur le vaste domaine du relationnel entre son esprit et lui-même, il est obligé de prendre un certain temps pour s'ajuster. Et c'est cet ajustement-là qui amène l'homme à dépasser les voiles spirituelles, parce que l'homme a tendance à spiritualiser son contact ou le contact avec son esprit. Et cette spiritualité fait partie naturellement de l'émotivité dans son mental. Et avec le temps, il dépasse cette condition spirituelle et inévitablement, la fusion grandit, inévitablement, le choc devient plus intense, la rébellion de l'homme se fait de plus en plus profonde. Et lorsque l'homme est arrivé à un très très haut niveau de fusion, il est capable de se rebeller contre son esprit. Mais lorsqu'il se rebelle contre son esprit, ce n'est pas contre son esprit qu'il se rebelle. Il se rebelle contre les outils utilisés par son esprit, qui sont les événements et les pensées. Donc à ce moment-là, il épure énormément son corps émotionnel, il transforme énormément son corps mental et éventuellement il devient très lucide, c'est-à-dire qu'il est capable de capter instantanément la relation entre lui et son esprit, l'intention de son esprit. Et quand l'homme est capable de capter l'intention de son esprit, il est dans son esprit, il y a une fusion entre lui et son esprit, il y a automatiquement chez l'homme le développement d'une conscience universelle qui est proportionnelle à l'évolution de son esprit.
Maintenant, quant à vous, Bernard, vous n'avez jamais été très éloquent concernant votre propre expérience dans ce domaine. En conférence, je vous ai rarement entendu faire le récit de ce que vous avez vécu personnellement. Comment vous avez vécu cette fusion? Est-ce que vous avez souffert vous-même?
Oui, j'ai souffert énormément. J'ai vécu ce que j'appelle le martyr mental, c'est-à-dire que j'ai vécu à la limite de mon mental. Pendant 14 années. J'ai vécu pendant 14 années la lutte entre mon ego et mon esprit. mais étant supporté par mon esprit, autrement dit, ayant un corps mental suffisamment solide pour supporter le choc de mon esprit, je peux, pendant des années, constamment mettre mon esprit à l'épreuve. Mettant mon esprit à l'épreuve, ça me permettait inévitablement d'en arriver un jour à corriger la différenciation entre mon esprit et mon ego. Si je mettais mon esprit à mon épreuve, autrement dit, si mon esprit fait partie de moi, si mon esprit c'est mon essence, je peux faire ce que je veux avec le matériel de vie que me propose mon esprit expérimentalement pour la transmutation des corps. Okay. Mon esprit se décide à un certain moment de mon évolution de fusionner avec moi, avec le mortel, avec mon corps physique. Bon, ça, ça fait partie de la décision, de l'intention de mon esprit. Mais moi, l'homme Montréal en chair et en os, l'homme qui possède un système nerveux, l'homme qui a des limites sensorielles, l'homme qui a une très grande sensibilité, l'homme qui est réceptif à cette énergie, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va se laisser martyriser par son esprit. Alors, selon le pouvoir de son esprit, selon le pouvoir de mon esprit, je pouvais supporter certains martyrs. Mais
c'est là que s'installe la révolte dont vous aviez fait allusion.
C'est là que s'installe la révolte. Donc, éventuellement, la révolte s'est installée parce que, éventuellement, au cours des années, je vous assure que j'ai perdu ma spiritualité. Je suis rentré dans une conscience objective de l'irréel ou de l'irrationnel ou de l'invisible. Donc, avec le temps, j'ai commencé à reconnaître les signes avant-coureurs de la précédence de ma relation avec mon esprit. J'ai commencé à réaliser que l'homme n'est pas sur la terre pour son esprit, mais que l'esprit est pour l'homme. J'ai commencé. Et de temps en autre, je communiquais avec mon esprit dans une lutte mentale, et je disais à mon esprit, écoute, moi je ne suis pas ici pour subir ta présence en moi d'une façon interminable et dans la souffrance. Je suis ici pour éventuellement équilibrer ta présence en moi pour que toi et moi ensemble nous puissions faire sur le plan matériel quelque chose. Et lorsque j'ai saisi ceci m'a pris un certain nombre d'années, au moins 7-8 années. Quand j'ai saisi ceci, j'ai commencé à être et à vivre à la fine pointe de mon intelligence, non pas mon esprit. À la fine pointe de mon intelligence créative, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à arracher à mon esprit les secrets de sa domination, les secrets de sa présence, les secrets de son évolution, les secrets de l'évolution du cosmos, les secrets de la mort, les secrets de tout ce qui fait partie du monde de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que l'homme nouveau, possède en lui une clé qui n'a jamais été révélée par l'esprit à l'homme, mais que l'homme devait arracher à l'esprit, afin de s'instruire de sa relation avec l'esprit, afin de ne plus être assujetti à l'esprit, comme il le fut pendant l'évolution. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir ce que c'est que ça veut dire d'être bien dans sa peau. Ce que c'est que ça veut dire d'être heureux sur la terre. Ce que c'est que ça veut dire d'être parfaitement dans l'équilibre de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai commencé à réaliser ce que nous appelons infusion, mais non pas dans le caractère occulte de sa définition, mais dans le caractère expérimental de sa finition. Et après la fusion, je me suis aperçu qu'il y a une impassion. La fusion, c'est une chose, parce que la fusion, c'est une forme de possession. Les hommes qui sont inconscients sont possédés par leur esprit à travers tout le mécanisme de l'âme. Les hommes qui se conscientisent sont possédés par leur esprit à travers la spiritualité de l'âme. Et l'homme qui a été éprouvé énormément et durement par son esprit passe du stade de la fusion à l'intégration. Et quand l'homme est arrivé à l'intégration de sa fusion, il devient absolu dans sa conscience. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de vérifier instantanément avec son esprit la justesse de sa parole, la justesse de son acte. Donc, il y a parfaite harmonie entre l'invisible et le matériel, il y a parfaite harmonie entre l'esprit et le mortel, il y a automatiquement parfaite harmonie dans le processus créatif qui naît de l'activité de l'esprit, bien ajusté au mental, bien ajusté à l'émotionnel, bien ajusté au vital et bien ajusté au physique. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'est-ce que c'est être un homme sur une planète. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'il fait partie, non pas simplement d'une race différente, mais d'une conscience nouvelle. C'est à partir de ce moment-là que le doute n'existe plus dans l'homme. Et quand le doute n'existe plus dans l'homme, il explose en lui la conscience du réel qui est manifestée créativement par sa parole et qui est le produit de sa relation étroite avec un esprit qui ne peut plus le berner. La conscience créative, ce n'est pas ce que les hommes spirituels aujourd'hui croient. La conscience créative ne vient pas à l'homme ainsi, avec facilité. La conscience créative est le produit de la lutte de l'homme avec son esprit pour la conquête du monde de la pensée. Lorsque l'homme a réussi à conquérir le monde de la pensée en éliminant dans la pensée l'émotion, il s'aperçoit inévitablement qu'il y a une relation parfaite entre son essence et sa substance, entre son esprit et son corps matériel, donc qu'il y a intégration, unitisation de l'homme et qu'il y a parfait accordement entre l'invisible et le matériel. À partir de ce moment-là, l'homme commence une nouvelle évolution et avec le temps, selon les conditions, le bon vouloir, des besoins cosmiques de l'esprit en relation avec l'évolution d'une race matérielle sur une planète matérielle, les pouvoirs de l'homme grandissent, l'ego n'est plus là pour bénéficier égocentriquement de ses pouvoirs, il y a canalisation de l'énergie, il y a ajustement entre l'énergie et l'action de l'homme, et il y a inévitablement une science cosmique qui viendra dans le monde manifester le pouvoir de l'esprit sur la terre. C'est ça qu'on peut appeler le début de la conscience, de la descente de la conscience supramentale sur la terre. Mais la conscience supramentale, ce n'est pas fini. Après la conscience supramentale de l'homme, il y a la conscience parfaite de l'esprit de l'homme à travers le mental ou le supramental humain. Si l'homme n'a pas conscience parfaite de l'utilisation de la pensée pour le travail dans son mental, il ne peut pas éventuellement coordonner son activité à son essence, il ne peut pas bénéficier de son esprit, il en souffre. C'est pourquoi après la fusion, il y a l'intégration. Et l'intégration, c'est la finalité. L'intégration, lorsqu'un homme est intégré, il n'a plus à rechercher, il n'a plus à comprendre. Il part, il crée, il fait, il dit, et ce qu'il fait est parfaitement en équilibre, donc est le résultat de l'activité créative de son esprit à travers son ego.
Et à partir de quel moment l'homme peut-il commencer à lever le voile sur le mystère? Est-ce que c'est au moment de la fusion ou de l'intégration?
Non. L'homme commence à lever le voile sur le mystère à partir du moment de l'intégration. Parce que pendant la fusion, l'homme est donné des voiles. Il est mis des voiles sur son chemin pour les déchirer. L'esprit, dans son intelligence, est obligé de mettre des obstacles pour que l'homme déchire. Il met des obstacles pour déchirer, il met des obstacles pour déchirer. Et éventuellement, lorsque l'homme a déchiré, éventuellement, il n'y a plus rien à déchirer. Quand il n'y a plus rien à déchirer, c'est l'intégration. Et à ce moment-là, il y a un équilibre cosmique entre planétaire et le cosmos, entre l'homme et l'esprit. Et la volonté de l'homme et la volonté de l'esprit est la même. L'intelligence de l'homme et l'intelligence de l'esprit se fondent. Et l'amour de l'homme et l'amour de l'esprit deviennent un. Donc à ce moment-là, l'homme bénéficie des trois principes cosmiques qui font partie de ce sens, l'amour, l'intelligence et la volonté. Mais il ne souffre plus de l'intelligence, il ne souffre plus de la volonté et il ne souffre plus de l'amour.
La deuxième partie de cet enregistrement devrait permettre à l'homme de se situer face au travail initiatique, face à la parole de Bernard de Montréal, qu'il faut comprendre en fonction de la vibration et non de la forme.
Puisque je vous parle en tant qu'initié, c'est-à-dire que puisque je vous parle en fonction d'une conscience qui est sans aucune restriction, le produit de l'activité de mon esprit sur mon ego, ce que je vous dis quand je vous parle, il faut que vous le laissiez pénétrer lentement. Il ne faut pas que vous essayiez de comprendre, de vous situer personnellement vis-à-vis de ce que je vous dis. C'est jamais ce que je vous dis qui compte pour le moment. Pour le moment, ce qui compte, c'est que je vous parle. Si vous prenez ce que je vous dis à la lettre, si vous essayez de comprendre, de vous situer vis-à-vis de ce que je vous dis en fonction de votre psychologie, c'est évident que vous ne pourrez pas en arriver un jour à saisir les nuances subtiles de votre propre esprit avec votre propre ego. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer des attitudes philosophiques quelconques, ou des mécanismes psychologiques quelconques, en relation avec ma parole. Ma parole, c'est un couteau à deux tranchants. Je ne montre jamais par ma parole ce que je veux dire. C'est jamais dans ma parole que vous découvrirez ce que je vous dis. C'est jamais dans ma parole que vous pourrez comprendre ce que je veux dire. La parole de l'initié, c'est comme de l'eau qui tombe un petit peu partout. Des fois, il y a une goutte d'eau qui tombe à un point sensible du terrain pour faire pousser de l'herbe. C'est pas comme l'eau qui descend d'une chandeleur, concentrée dans un espace. C'est totalement diffus. C'est totalement vibratoire. C'est pas catégorique, c'est pas cartésien, c'est pas philosophique, c'est pas psychologique, c'est pas spirituel. C'est totalement occulte. C'est-à-dire que c'est totalement voilé. Donc, quand je m'adresse à vous autres dans des conférences où je semble soulever des aspects de la vie, des comportements humains vis-à-vis de la vie, des comportements de l'ego vis-à-vis de l'esprit, ce qui compte, c'est pas la forme que prend la parole quand je parle. Ce qui compte, c'est la vibration qui s'installe et qui, demain, dans un certain temps, vous amènera à regarder ou à voir ou à sentir ou à percevoir quelque chose en fonction de votre propre expérience qui peut-être n'a rien à faire avec ce que je dis ce soir ou dans telle ou telle conférence. C'est totalement vibratoire. Si vous vous appelez à ce que je dis, surtout dans des domaines subtils, dans des domaines personnels, dans des domaines qui conviennent à votre expérience, et que vous prenez la soupe pour la saveur, c'est évident que vous ne pourrez pas absorber ce que je dis. Vous allez faire des erreurs. Vous allez vous créer des contraintes. Quand je vous parle, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous parle. Je sais pourquoi est-ce que je vous parle. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je sais quand je vous le dis. Donc, automatiquement, je réfléchis instantanément pour un besoin qui est quelconque, qui est occulte, que je sais si je me le demande, que je peux étudier si je le veux, que je peux expliquer si c'est nécessaire, mais qui ne réfléchit pas le besoin chez vous de le comprendre d'une façon didactique. Plus je confronte la réalité de l'homme avec la réalité de ce qu'il pense, plus c'est nécessaire pour moi de ne pas s'atteler à la force et de simplement vivre la vibration. C'est la vibration qui compte, pas la force. La vibration, elle, par exemple, ferait dans son temps, dans chacun de nous autres, le travail qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle ouvrirait des portes à la compréhension de l'ego vis-à-vis son propre esprit. C'est la vibration, c'est pas la force. Alors, je vous le dis parce que quand je parle en fonction d'un terrain d'expérience qui est personnel, qui est subtil, qui est extrêmement varié, qui n'est pas catégoriquement joint à une doctrine, à ce moment-là, c'est à vous autres de prendre ça bien aisé et de ne pas vous impliquer psychologiquement dans ce que je vous dis. Pour vous autres, c'est bien important. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais ce que je dis. Mais ce que je dis, où ça va tomber, qu'est-ce que ça va faire, ça fait partie de la vibration. Ça fait partie du travail initiatique. Ça fait partie de ma capacité de révéler des aspects, des voiles de la conscience de l'intérieur de l'homme, que l'homme comprendra, vivra dans son temps. l'ascenseur, vous allez devenir tout croche. Si je veux me dire de devenir croche, il s'agit pour me dire de devenir de plus en plus réel. Et le réel ne convient pas à l'ego. Le réel ne fait pas partie de l'ego. Le réel traverse l'ego. Un jour, vous comprendrez ça. Que le réel traverse l'ego. Il ne convient pas à l'ego. Le réel ne convient jamais à l'ego. Il ne conviendra jamais à l'ego, le réel. Parce que le réel fait partie du monde mental de l'esprit. Il ne fait pas partie du monde réflexif de l'ego. L'évolution d'une race vers une autre, la transition d'une race vers une autre, l'intégration d'une nouvelle race, la conscientisation de l'homme sur la terre, nécessite la restructuration du sol à l'intérieur duquel l'homme a vécu pendant des millénaires. On n'a pas de choix. Alors, ce qui caractérise l'homme nouveau, l'homme de demain, c'est sa capacité d'en arriver un jour à être d'abord lucide et avoir la volonté pour exprimer sa lucidité. Tout le reste, c'est une forme ou autre d'affabulation de l'ego. On vit à la fin d'un âge. On vit à la fin d'une période. Ce qu'on a pensé pendant la période précédente ne vaudra plus demain. Non pas parce que c'est pas bon ce qu'on pense, mais parce que demain on sera autre chose. Demain, l'homme sera autre chose. Il commence déjà à être autre chose. Demain, l'homme vivra à partir du front, il ne vivra plus à partir du plexus solaire. Il utilisera simplement le plexus solaire pour performer certaines actions. Donc, l'homme vivra à partir du front. Et quand l'homme vivra à partir du front, sa conscience sera différente, donc sa vie sera différente. Donc, les conditions, les qualités, les aspects philosophiques, psychologiques de sa vie seront hauts. Il n'y en aura plus de philosophie dans sa tête. Il n'y en aura plus de psychologie dans sa tête. Il y aura simplement dans sa tête de la volonté et de l'intelligence publique. On gravite lentement vers ça. Malgré nous-mêmes. Donc, ce que je vous dis, surtout quand je traite de sujets délicats, c'est pas pour vos deux oreilles, c'est pour votre esprit. Pour réveiller en vous, pour faire vibrer en vous votre esprit qui, en conséquence, fera vibrer votre ego. L'esprit, c'est télépathique. L'ego, c'est rébarbatif. C'est toujours rébarbatif, l'ego. Ça l'a toujours été, puis ça va l'être tant que l'homme ne sera pas arrivé dans un niveau de conscience supérieur. L'ego, c'est rébarbatif. On veut vivre une conscience universelle, on veut vivre une conscience globale, totale, perfectionnée. Et en même temps, on veut bénéficier du soulagement psychologique qu'on se donne égoïquement vis-à-vis de cette conscience-là. C'est une illusion. C'est une illusion. Vous ne pouvez pas mystifier la pensée indéfiniment. Un jour ou l'autre, elle va se démystifier la pensée. Puis quand elle va se démystifier la pensée, vous allez vivre au niveau de votre volonté et de votre intelligence d'une façon différente que vous vivez aujourd'hui. En attendant, vous pouvez la mystifier, votre pensée. Ça fait partie de vos attributs. Mais un jour, vous ne pourrez plus la mystifier, votre pensée. Autant aujourd'hui, vous avez un centre d'intériorité égoïque, autant un jour, vous n'aurez plus. L'esprit, c'est la puissance de l'homme, c'est la puissance dans l'homme. L'ego n'est qu'une lentille. Aujourd'hui, on pense que l'ego, c'est l'esprit. L'ego n'est pas l'esprit. L'ego, c'est l'ego. L'esprit, c'est l'esprit. Il y a une partie qui est cosmique, une partie qui est planétaire. Donc, dans l'instruction initiatique que l'homme reçoit, il y a effectivement des aspects qui sont au-delà de la réalisation de l'ego, et ça fait partie du travail initiatique de l'esprit à travers l'homme pour la conscientisation de l'ego à travers les expériences de l'âme. L'esprit n'enseigne pas à l'âme, l'esprit instruit l'âme. Instruire veut dire corriger les aberrations de l'intellect, corriger les aberrations de l'ego intellectualisé, corriger les aberrations du mental inférieur, c'est ça instruire. Enseigner, c'est amplifier les aberrations de l'ego. Plus l'homme va avancer sur la terre dans sa conscience, plus il va se transformer, donc plus il vivra différemment demain qu'il vit aujourd'hui. Donc les conditions aujourd'hui qui sont pour lui inévitablement correctes dans un certain sens, ou sérieuses dans un certain sens, ou pleines de conséquences dans un certain sens, demain elles ne le seront plus. Selon l'âge, selon le tempérament, selon le caractère, selon l'évolution, selon la souffrance, selon l'expérience, selon la volonté, selon l'intelligence, selon la fusion, selon l'intégration de la fusion. Ce qu'on pense aujourd'hui, demain, on le verra différemment. Et ce qu'on pense le demain, on le verra encore différemment après demain. C'est ça la transmutation du corps astral de l'âme, du corps mental inférieur de l'âme. Non, ce que je vous dis, attachez-y pas d'importance. Si vous y attachez d'importance, vous développez des attitudes. Mais ce sont des façons, pour moi, de vous indiquer dans le temps que quand vous serez arrivé à la fourche de l'expérience, il y aura une droite ou une gauche à prendre et vous devrez savoir si c'est la droite ou la gauche à prendre. Et vous faites plaisir, je ne peux pas me complaire à vous parler pour vous enseigner, je ne peux pas me complaire pour vous parler dans le rythme normal de votre propre intellect. Je suis obligé de vous parler comme vous parlez. Vous êtes libre de le prendre ou pas le prendre. Mais ça ne change rien à ma vie que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas. Ce qui est important, c'est que ça soit parlé. Un jour, si vous réalisez certaines choses, à ce moment-là, ben, vous comprendrez en fonction de la vibration de ce que je vous ai dit, mais non pas en fonction de la forme. La forme, c'est simplement un transport pour l'énergie. Je t'appelle. Je ne peux pas parler pas occultement. Je suis occulte. Tout ce que je dis, c'est occulte. Autrement dit, tout ce que je dis, ça ne se comprend pas la plupart du temps. Et c'est justement parce que ça ne se comprend pas la plupart du temps que ça se comprend demain. C'est ça, occulte, voilé, caché. Fait qu'essayez pas de rendre concret ce qui est occulte. Essayez pas de l'adapter à votre condition aujourd'hui. Il ne pourra pas s'adapter. Vous n'avez pas la même longueur de pied aujourd'hui que vous avez demain. Non, ce ne sera pas le même suivi. Mon travail, c'est fondé sur la création dans l'homme, dans l'ego, de certains chocs. Je parle, donc je crée des chocs. Les chocs sont plus ou moins grands selon votre capacité de les absorber sans mettre votre pied dans votre tête. On dirait que l'homme ne réalise pas l'importance dans la vie de vivre. Il sait. Il sait. C'est important de vivre, ça donne quelque chose de vivre, ainsi de suite. Alors vous remarquez que quand vous êtes jamais sorti de votre pays, puis vous allez dans un pays étranger, ça vous change un petit peu. Ça change. Le premier voyage que vous avez fait dans votre vie, là, en dehors de votre région natale, ça change. Bon, ben imaginez-vous que chaque pays que vous faites, ça vous change de même. Chaque expérience que vous vivez, ça vous change de même. Donc, un homme qui est capable de bénéficier ou d'apprécier le changement qui est créé par les intentions, quand il vit, ben à ce moment-là, il passe son temps à créer des impressions, à se donner des impressions. Bon, son temps. La vie, c'est ça. La vie, ça passe, c'est ça. Que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans un autre domaine, la vie, c'est créer des impressions pour se nourrir mentalement, se nourrir émotivement. Mais ils se nourrissent vitalement et physiquement. C'est ça la vie. Aujourd'hui, c'est parce qu'on va voir des films. Ah, Indiana Jones, tout le monde voit de ça, Indiana Jones. Il est temps pour le groupe, ça marche là-dedans, comprends-tu? Le gars, il l'a, il gâte, puis il a l'air d'avancer le fan, ça rêve. Tu sors de là, là, t'es déprimé. T'es exilé un petit peu, là, parce que t'arrives en vibration astrale, puis après ça, là. C'est comme le gars qui va voir Bruce Lee, tu sais. Quand tu t'en sors de théâtre avec Bruce Lee, ils sont safe, tu sais. Mais quand ils sont rendus salut, Bruce Lee meurt. Il continue plus à vivre. À vivre, l'intensité vibratoire de l'impression. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de créer. Fait qu'ils vont en créer une fausse. Tu vas sentir toute la violence psychologique autour du théâtre quand tu sors. Là. Tout le monde veut se garocher les points et les pattes. Il faut que tu fasses attention comment tu parles au gars. Ça, c'est l'exagération du moment. C'est pas dangereux, ça. Tes étapes vite. Chaque être humain, il y a un homme qui veut prendre forme, il y a un homme qui veut se manifester, il y a une femme qui veut se manifester, il y a un être qui veut se composer et se recomposer, se recomposer. Et si vous n'apprenez pas dans votre vie à vous recomposer, quand même vous viendriez dans mes conférences pendant toute votre vie, ça ne vous donnera rien parce que vous n'aurez pas compris le principe fondamental de la vie mortelle, c'est d'exercer le plus possible le pouvoir de l'esprit dans la matière. Je crois que le couple, comme tout, la matière, comme la forme, sera muté. Il y aura transmutation à tous les niveaux. C'est inévitable, puisque l'homme sera de plus en plus imbu d'esprit, donc il y aura transmutation de la forme. Et je crois que le couple que nous connaissons, que nous avons connu dans le passé, qui était fondé sur l'insécurité, qui était fondé sur l'amour subjectif, personnel, qui était fondé aussi sur certaines règles du jeu, comme nous connaissions il y a 25 ans dans la relation entre le mariage et l'Église, ainsi de suite, le couple sera transmuté. C'est-à-dire que les individus, dans ce temps-là, vivront le couple non plus en fonction d'une intimité émotive, mais en fonction de leur esprit. Donc, l'individu, l'homme et la femme, étant tous les deux dans leur esprit, c'est-à-dire dans leur intelligence créative, ayant la synthèse de leur émotion, de leur mental, de leur être, seront capables de vivre une alliance que nous appelons le couple, mais une alliance qui sera forte, qui sera un roc, qui ne sera plus assujetti aux forces extérieures, mais qui sera une composante intégrale du pouvoir créatif de l'homme et de la femme, et ça, que ces deux actes sont sur le matériel. Autrement dit, le couple dans l'avenir, je le vois comme étant une nouvelle redéfinition de l'alliance entre l'homme et la femme, et cette alliance sera le produit de la gestion du matériel créatif de l'homme et la femme, et non plus le produit de l'approbation sociale, ou l'orientation sociale, ou l'évolution sociale, afin de permettre que la société soit régie sur le plan de l'expérience par des paramètres qui stabilisent son économie politico-sociale. Le couple sera totalement éternisé, c'est-à-dire que le couple sera quelque chose de créé par l'homme et la femme, pour l'homme et la femme, et pour la société. Mais il y aura automatiquement le maître social qui résultera de cette nouvelle définition de couple, parce qu'à ce moment-là, le couple ne sera plus sujet aux crises qu'il a connues dans le passé. Donc l'homme sera beaucoup plus stable, il sera beaucoup plus beau, il sera dans un sens cosmique, c'est-à-dire qu'il sera réel.
Donc un échange se ferait vibratoirement au niveau de l'esprit plutôt qu'en faisant entrer des composantes émotionnelles. Voilà. Est-ce qu'il peut en être de même rapport avec les gouvernements, les pays, les races, etc. Est-ce qu'il est possible d'avoir des échanges à ce niveau-là qui soient sur des cultures?
Oui, ce serait la même chose. Que la parce que l'esprit est une force cosmique, est une force dans l'universel qui pénètre tous les aspects de la vie d'une planète. L'esprit, ce n'est pas simplement quelque chose qui se manifeste sur le plan individu. C'est quelque chose qui part du vue, mais qui a des retombées incroyable à l'échelle infinie, et éventuellement les gouvernements seront affectés par cette énergie. Ils vont dans les gouvernements des individus ressortir de la grande masse politique et commencer à redéfinir l'action de l'homme, commencer à regarder l'horizon de l'homme et à projeter dans la vie politique des plans, des modèles de vie qui aujourd'hui nous apparaîtraient comme absolument impossibles. Je crois que pour que ceci se fasse, il sera nécessaire que l'homme vive sa crise jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis que cette nouvelle redéfinition du politique, cette nouvelle redéfinition de la société, en fonction de l'énergisation du mental de l'homme, se fera après crise. L'homme devra payer le prix de la crise pour bénéficier du pouvoir de l'esprit, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif.
À travers cette crise évolutive, douloureuse mais nécessaire, peut-être même salutaire, il y a donc remise en question perpétuelle de tous nos systèmes de valeurs, de nos systèmes philosophiques de pensée, systèmes économiques, sociaux, religieux, etc. Et il y a également, certainement pour lui, un seuil de souffrance qui va lui être intolérable, imposé et intolérable. N'est-il pas une façon ou un moyen pour l'homme de traverser intelligemment cette fin de cycle-là et de neutraliser, de temporiser en quelque sorte la souffrance?
C'est une question intéressante. Je ne crois pas. Je crois que la crise est essentielle pour que pénètre l'esprit dans l'homme. Pour qu'il y ait chez l'homme un changement, il faut qu'il y ait une souffrance, un seuil de souffrance. Je ne suis pas de type optimiste dans ce sens que l'homme puisse passer à travers cette crise sans souffrir. Je crois que l'homme sera obligé de la vivre de façon intense selon son individualité, selon son stade d'évolution, son évolution, sa maturité. Et je crois que les nations les plus fortes, les signes les plus forts, les plus en santé, dépasseront les conditions difficiles de cette crise. Et nous savons très bien, dans le cadre de la biologie par exemple, de la génétique, que ce sont toujours les systèmes les plus en santé qui réussissent à continuer leur évolution. Et sur le plan de l'esprit, sur le plan de la gestion matérielle, sur le plan de la gestion de la société, je crois que ce sera la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Mais nous devons savoir, et c'est ici qu'entre en jeu l'importance de la psychologie, l'importance de l'éducation. Nous devons savoir profondément qu'il y a des réponses à crise, qu'il y a des réponses à cette mutation, qu'il y a des réponses à cette question profonde de l'homme, où va-t-il? Où les événements vont-ils mener? Ces réponses sont enfouies dans le sol de sa conscience mutile. Et il doit être déterré. Et l'homme pourra déterrer ses réponses s'il se donne la chance de regarder devant lui au lieu de couler de façon enfantine à fonder son avenir sur son passé. L'homme va regarder dans l'avenir avec une vision nouvelle. Les écailles doivent tomber de ses yeux afin que son esprit soit plus en position de donner à son intelligence de la clarté. Et si l'homme au niveau de ses goûts, de son intellect, se refuse d'absorber les nouveaux rayons de cet esprit qui essaie de pénétrer son intelligence, il est évident qu'il souffrira parce qu'il fondera son expérience présente sur sa mémoire. Il verra des clichés sombres. Il se nourrira de pensées sombres. Et automatiquement, son émotivité aggravera la situation. Et sur un collectif, ceci pourra facilement mener à une névrose, à une contagion sociale, à une déprogrammation psychique sociale, de sorte que l'homme trouvera dans la terreur, trouvera dans la dissolution rapide et animale du système de vie, la réponse optée. Et ce ne sera pas là. Ce ne sera pas dans le terrorisme des idées, ça ne va pas dans le terrorisme de l'armement, ce ne sera pas dans le terrorisme de l'activité intellectuelle contre l'homme qu'il pourra ouvrir la réponse à son avenir. L'homme sera obligé de prendre possession de ses sens, c'est-à-dire possession de son esprit. Il sera obligé de regarder en face les événements. Il est dit que les événements tels qu'ils sont aujourd'hui sur la Terre ne sont pas simplement le reflet de son activité, mais sont le reflet de l'activité de l'esprit à travers son intellect primitif. Et lorsque l'homme aura réalisé ceci, il aura dit que son intellect, qu'il croit être son intelligence, n'est pas aussi intelligent qu'il le croit, il commence à comprendre quelque chose, et là, il se donne la peine de s'asseoir, de réfléchir, et de prendre conscience. L'homme doit prendre conscience, c'est-à-dire qu'il doit commencer à toucher du doigt ce qui, dans le passé, a toujours été refoulé, ce qui a toujours emmuré dans les tours. L'homme doit prendre conscience que la vie, c'est la puissance. La vie, c'est puissant. Et lorsque la vie passe à travers une arme, soit seule ou individuelle, elle crée un raz-de-marée. Cette raz-de-marée, c'est la crise, et ensuite vient un autre cycle. Donc je ne crois pas que l'homme vivra la fin du cycle assis sur son balcon, sans brancher. Je crois que l'homme verra, donc sera obligé de voir des choses, sentir des choses, et voir jusqu'à quel point il a été idiot. Et tant que l'homme ne réalisera pas qu'il a été idiot, il n'aura pas commencé à comprendre ce qu'est l'intelligence. Parce que, comme je dis, l'intelligence créative, ce n'est pas de l'intellect. Il y a une marge infinie entre ce que nous considérons de l'intelligence créative et ce que nous connaissons comme de l'intellect. Il y a une marge infinie et cette marge sera connue, investiguée, comprise au fur et à mesure que l'homme vivra cette transmutation active, cette transmutation mentale.
Et alors, l'après-crise, la jeunesse d'un monde nouveau, comment voyez-vous ça?
L'après-crise, je la vois comme la structuration mondiale sur le plan de la politique. Je la vois comme l'effort inexorable, inévitable, essentiel de tous les gouvernements de se regrouper dans une mentalité politique nouvelle. Je la vois comme étant une phase où le nationalisme obscurantiste que nous connaissons aura été éliminé. Je la vois comme étant une phase où il y aura eu synthèse entre la Russie et les États-Unis. Je la vois où il y aura eu une réorganisation des priorités. Je la vois comme étant la phase où l'homme de la masse sera suffisamment averti, suffisamment fatigué, suffisamment attiré par les conditions incontrôlables qui auront été déclenchées par les forces sociales et qui, effectivement, forceront l'homme à regarder de manière spicace les intentions, les mouvements, la gestion de ses affaires par les gouvernements. Le gouvernement mondial qui viendra de crise s'assure. C'est-à-dire que les masses auront pris la vertu de ce gouvernement. Parce qu'ils auront compris que de vertu n'a pas pour le gouvernement. Donc je vois l'après-crise comme étant un âge nouveau où la guerre n'existera plus parce qu'il n'y aura plus dans l'homme suffisant de force anti-homme. Ces forces auront été créées par la science. Et c'est pour ça que je dis que la science est nécessaire. Parce que c'est cette énergie dans l'homme qui, sur le plan social, si sur le plan individuel, éliminera en lui l'animalité obscurantiste, primitive, égoïste et nationaliste que nous connaissons aujourd'hui, qui terrorise les masses, qui donne le profit à certains monopoles, à certaines grandes puissances, et qui empêche que nous ayons sur la Terre une géopolitique inébranlable, c'est-à-dire une géopolitique de la limite à planétaire et soutenue par des courants culturels, raciaux, nationalistes, mais intelligents au lieu purement égocentrique.
Alors on pourrait dire que la crise aura eu pour effet de développer le discernement.
Là, justement, la crise aura eu de développer le discernement, il aura eu l'effet de forcer l'homme à reconsidérer, à regarder, foi, avec les yeux nouveaux, la comptabilité, sa gestion. Et l'homme aura tellement souffert dans cette crise, et je ne crois pas que ce que nous vivons aujourd'hui est la fin, l'homme aura tellement souffert cette crise qu'il voudra le repos. Ce sera le coup du guerrier.
En attendant, la situation de l'homme, c'est une sollicitation permanente pour différents mouvements, pour différentes religions, différents systèmes philosophiques, il est charrié d'un mouvement à l'autre. Et il perd l'équilibre, il m'assise, c'est un vertige qui frôle la mort.
Exactement.
Et il y a de plus en plus de cas de suicide, de plus en plus de cas de dépression.
Oui.
Mais quelles sont les forces qui sous-jacentes à ces états dépressifs?
Ce sont les forces d'esprit. Ce sont les forces de l'esprit qui forcent l'homme à reconsidérer sa position, qui forcent l'homme à regarder d'une façon nouvelle la gestion de son patrimoine. Ce sont des forces qui passent à travers, comme vous le dites, différents mouvements, différentes sectes, différents circuits politiques. Il y a des hommes, naturellement, sur la Terre qui ont une autre option, qui s'intéressent à telle chose, d'autres hommes qui s'intéressent à telle chose, et toutes les choses, quel que soit leur nom, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur option ou leur orientation, font partie de l'expérience de l'homme. Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, sur la Terre, la race humaine vit ce que j'appelle une conscience expérimentale. Elle ne vit pas une conscience créative. L'homme vit une conscience créative après la fin du cycle, une conscience expérimentale que nous connaissons aujourd'hui et qui a été l'expérience de l'homme pendant des millénaires. Ça sert à une chose, à perfectionner les mécanismes, c'est-à-dire les principes qui constituent sa corporalité matérielle et sa corporalité, c'est-à-dire sa vitalité, son éthique et sa vitalité. Donc, l'homme a vécu une conscience expérimentale. Il a été, dans ce sens, à demeurer aveugle. Il y a eu des pressions dans son mental par des forces qu'il ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont encore très obscures, des forces très intelligentes qui ont réussi, cours direct, à amener en marine du XXe siècle l'apothéose de la composition organique à l'apothéose de définition mentale émotive, autrement dit, à la totalisation de sa possibilité en tant qu'être humain terrestre. Et je crois qu'à la fin du cycle, après la crise, cette dernière grande crise, l'homme sera prêt à recommencer l'évolution, c'est-à-dire à réellement comprendre qu'il est sur la terre pour son bien-être, qu'il est sur la terre pour parfaire son intelligence et se donner la chance de créer ce qui dans le passé est impossible parce que dans le passé, l'homme était trop, ou je dirais, alourdi par des formes dont il ne connaissait pas les lois. Donc l'homme ne connaissant pas le passé, il est obligé de vivre dans ce lieu facile. Tandis que demain, l'homme connaîtra son esprit, c'est-à-dire qu'il sera capable de faire la synthèse de cette énergie sur le plan mental et de diriger à sa volonté, selon sa volonté, l'évolution future de son unité.
Alors ça vient à dire que toute cette histoire évolutive par laquelle les personnes avaient différentes civilisations avait quand même un objectif. Mais la notion de progrès telle que les modernes se la représentent, c'est une ascension permanente. Et les ésotéristes perçoivent ce progrès au niveau de la conscience, et il semblerait que l'apparition de l'esprit sur la Terre jusqu'à nos jours, on serait plutôt en régression plutôt qu'en ascension.
Comment on peut dire que les ésotéristes tendent à penser à l'homme d'une façon universelle, et c'est très bien, parce que l'homme est un être universel. Et ils ont tendance à penser à l'évolution en termes de progression permanente. Ça, c'est vrai dans un sens seulement. Dans ce sens que la période que nous avons connue jusqu'à nos jours est une période évolutive, c'est-à-dire c'est une période qui a permis à l'esprit de descendre dans la matière, de former les corps physiques et subtils de l'homme. Mais maintenant que nous avons vu que les corps sont formés, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler l'évolution. L'homme commence maintenant, à la fin du XXe siècle, son évolution réelle, c'est-à-dire qu'il prend conscience de son territoire psychique. Tandis qu'auparavant, l'homme était esclave de son territoire psychique. Il était esclave de ses rêves, il était esclave de ses fantômes, de ses fantaisies, il était esclave de sa pensée subjective, de ses émotions. Tandis que l'homme de demain ne sera plus esclave de formes qui constituent la dimensionnalité de son intelligence, parce qu'il a connu la synthèse de l'esprit, c'est-à-dire de cette énergie créative avec son mental. Donc, nous sommes dans une phase qui est évolutive, et nous sortons d'une phase qui était effectivement évolutive. Et derrière ces deux phases,
il y a une acquisition.
Il y a une acquisition de conscience, mais acquisition de conscience, ceci je le considère comme important, acquisition de conscience, non par le bénéfice de l'ego, mais pour le bénéfice de l'intelligence qui sont sous-jacentes à l'organisation matérielle de l'homme. Et c'est pour ça que je dis que l'homme, maintenant, doit devenir autonome, centré, c'est-à-dire un être capable de gérer ou de faire la gestion lui-même, par lui-même, du matériel psychique en lui, au lieu que ce matériel lui soit imposé, comme il lui a été imposé par le passé, à travers les philosophies, à travers les religions, à travers les systèmes qui ont changé constamment. Donc l'homme doit commencer à servir sous ses pieds le roc de la vie, c'est-à-dire le roc de la pensée, c'est-à-dire le pouvoir de la pensée. Fait de ne jamais pouvoir regarder de l'ennemi et dire, bon, il y a 50 ans, il y a un an, nous étions primitifs, nous avons fait des erreurs, nous devons corriger. L'homme a tout le temps corrigé son évolution. L'homme a tout le temps à corriger et effacer sur le tableau de la vie les choses qu'il a composées. L'homme doit être suffisamment éduqué à la synthèse et à la mi-tension pour être capable d'instantanément lire, parfois, parfaitement les événements créatifs de sa vie, afin que la science passe à un rythme très rapide pour que l'homme éventuellement soit capable de créer des systèmes parallèles avec la science qui existe dans le cosmos et qui pourra actuellement rencontrer une liaison avec celle de l'homme, donnant ainsi à l'homme une très grande puissance de création des modèles de vie qui existent dans d'autres parties de la galaxie et lui permet ainsi de connaître les différentes formes de vie, les différentes formes de conscience expérimentale qui existent dans ces mondes, mais qui ne sont alourdies par l'impuissance de l'activité de l'esprit à travers un ego qui a été trop animalisé pendant l'évolution.
Bien, alors ça prend pour acquis cette centrité qui t'a développé chez l'homme, aboutit, il me semble, nécessairement vers une sorte d'autonomie. Comment, quel va être le lien entre cette autonomie, cette individualité et la collectivité?
C'est une question récente, encore une fois. Le lieu sera très différent. Je n'ai pas l'homme de demain, l'homme ancien, l'homme qui possède toutes ses facultés, l'homme qui a le contrôle d'activité psychique en lui. Je ne vois pas cet homme comme étant un être qui sera assujetti au social. Il y aura une composante sociale qui sera le produit affirmatif d'une créativité individuelle. L'homme sera l'être un paramètre important dans la société, ce sera la société qui sera importante. Ceci ne veut pas dire que la société ne sera pas importante, mais ceci veut dire que le centre de force de l'activité vitale, biomentale sur la terre sera dans l'homme. Et l'homme, à cause de son pouvoir relationnel, de sa capacité éventuellement télépathique, pourra créer un social qui sera vivant au lieu d'être amorphe et forcé d'être prisonnier des forces, des fortes influences qui circulent à l'intérieur de son médium. Aujourd'hui, nous savons très bien que dans la société ou dans le social, il y a des forces qui circulent et qui empêchent le social de réellement exploser dans une composante multidimensionnelle et créative. Bon, dans l'avenir, je vois que l'homme, à cause de sa centricité, de son autonomie, ne pourra pas, dans un sens, vendre son âme à la société. Autrement dit, il ne pourra pas vendre son âme au diable. Autrement dit, il ne pourra pas servir de maître à foi le mensonge et le réel. Il sera obligé de vivre du réel parce que le mensonge, c'est-à-dire cet aspect à la fois binaire de la vérité et du faux, sera éliminé parce que l'homme ne vivra plus mentalement de la façon dont nous vivons aujourd'hui. L'homme aujourd'hui a besoin de la vérité et du mensonge pour se former une voie d'accès à un état de mentation suffisamment équilibré pour bien composer avec la vie. Mais ça, c'est parce qu'il est encore prisonnier de la mémoire. Il est encore prisonnier des formes qui lui ont été imposées par institutionnalisation. Tandis que l'homme de demain sera centré qu'autonome, il verra, il sera par lui-même, il n'aura pas besoin d'aller chercher à l'extérieur dans la mémoire de l'humanité ou dans les archives les éléments nécessaires pour composer avec le social ou avec lui-même. Donc, il ne sera plus prisonnier de la dualité du mensonge et automatiquement, il sera libre de voir dans l'expression sociale de son intelligence, des composantes créatives dynamiques qui ne pourront plus retarder sa relation avec le social et qui ne pourront plus empêcher le social de se métamorphoser constamment et de façon permanente afin de devenir de plus en plus une société de très haute civilisation permettant à l'homme, pour la première fois, de régir au lieu d'être régi.
Donc, dégagé des lois de la polarité, les structures sociales n'auront plus qu'à se plier à son nouveau point de vue, à cette nouvelle alternative.
Exactement. La société sera alimentée par l'homme créatif, elle sera alimentée par sa créativité, mais les forces en elle, à l'intérieur d'elle, qui cherchent en général à épuiser ce qui dans l'homme est vital, seront impuissantes parce que l'homme sera trop puissant. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que la société est devenue plus puissante que l'homme. L'homme n'a plus de puissance. Souvent, nous entendons dire des gens, l'homme est devenu un numéro.
Et moins l'homme prend de responsabilité, plus le gouvernement est responsable pour lui.
Exactement, et le gouvernement n'a pas de choix. Parce que le gouvernement ne peut pas voir que sa politique ou sa fonction de socialiser l'homme échoue. C'est normal.
En guise de conclusion.
En guise de conclusion, je dis qu'il est très important pour les individus dans le monde, pour les hommes d'intelligence, pour les hommes de bonne volonté, pour les hommes qui sont sensibles, intuitifs, de regarder pour la première fois leur nombril. Il est temps que l'homme commence à regarder son nombril et qu'il cesse de regarder le nombril des autres. Et quand l'homme se sera habitué à regarder son nombril, qu'il ne sera plus offusqué de regarder son nombril, qu'il n'aura plus la culpabilité de regarder son nombril, à ce moment-là, il commencera à regarder quelque chose qui est bien, et il verra que son nombril, dans le fond, c'est un soleil. Mais tant qu'il n'aura pas appris à regarder son nombril, il aura perdu de vue son individualité. Il est évident que dans le regard du nombril, dans cette expertise nouvelle, il y aura chez lui des erreurs. Il fera des erreurs parce qu'il se fixera trop sur son nombril. Mais ceci fait partie de l'expérience. Mais s'il ne commence pas à regarder son nombril, comment voulez-vous qu'il commence à regarder ce qui est en lui, dans sa tête, ce qui fait partie de son esprit, ce qui fait partie de sa réalité?
Eh bien, merci beaucoup, Bernard de Montréal, et à la semaine prochaine.